Merci, Monsieur le Président. J'exprime aussi ma reconnaissance au professeur Dario Mantovani pour son invitation. Traiter de l'équité en droit comparé ramène l'équité dans le droit, avec le risque de manquer au but du colloque en présentant des règles selon un point de vue étroitement juridique. Mais même pour les juristes, l'équité est un mystère et les interrogations n'ont jamais cessé pour déterminer si elle a sa place au centre ou seulement aux marges du droit. Prenons deux textes de théoriciens du droit du XXe siècle séparés par seulement 15 ans de distance. En 1913, Léon Duguy, dont il a été question tout à l'heure, dans Les transformations du droit public, écrit qu'il n'a jamais compris cette opposition que l'on prétend entre l'équité et le droit, entre la solution vraie en droit et la solution vraie en équité, entre la solution théorique et la solution pratique. Pour Duguy, ce qui n'est ni pratique ni équitable n'est pas juridique. Le droit est la règle inspirée par un sentiment d'équité et venant répondre à un besoin pratique. Il est cela, il n'est que cela, et une règle qui n'est pas cela n'est pas une règle de droit. En 1928, Hans Kelsen considère, dans son article sur la garantie juridictionnelle de la Constitution, que les principes non traduits en normes de droit positif, mais qui devraient l'être parce qu'équitables, n'ont pas de caractère obligatoire et ne peuvent avoir de rôle dans le procès de création du droit, particulièrement devant une juridiction constitutionnelle. Et poursuit-il, ce n'est qu'en apparence qu'il en est autrement lorsque, comme il arrive parfois, la Constitution elle-même se réfère à ces principes en évoquant les idéaux d'équité, de justice, de liberté, d'égalité, de moralité, sans préciser le moins du monde ce qu'il faut entendre par là. Si ces formules ne recouvrent rien de plus que l'idéologie juridique courante, dont tout ordre juridique s'efforce de se parer, la délégation de l'équité, de la liberté, de l'égalité, de la justice, de la moralité, signifie uniquement, à défaut d'une précision de ces valeurs, que le législateur, comme les organes d'exécution de la loi, sont autorisés à remplir discrétionnairement le domaine qui leur est abandonné par la Constitution et par la loi. Car les conceptions de la justice, de la liberté, de l'égalité, de la moralité diffèrent tellement, selon le point de vue des intéressés, que si le droit positif ne consacre pas l'une d'entre elles, toute règle de droit peut être justifiée par l'une de ces conceptions possibles. L'on pourrait arguer de cet éternel conflit entre jus naturaliste et jus positiviste, partisans et adversaires du cognitivisme des valeurs, que la querelle est sans solution, sinon au gré des options théoriques de chacun. Et dans la tradition française, je pourrais être hostile à l'équité dite cérébrine, comme le furent le président Fabre du Parlement de Savoie au début du XVIIe siècle, ou le président Bouillet au Parlement de Bourgogne au début du XVIIIe siècle, et je pourrais toujours garder en mémoire la célèbre mise en garde de Charondas le Caron, « Dieu nous garde de l'équité des parlements ». Face à ces tentations théoriques, voire idéologiques, le droit comparé a l'avantage de nous ramener sur un terrain empirique, celui des règles de droit positif qui, dans de nombreux ordres juridiques, nationaux ou internationaux, je ne parlerai pas des derniers, utilisent aujourd'hui le terme d'équité. Du point de vue terminologique, l'on s'accorde à identifier le même signifiant dans les mots équité, equita, equidad, equidade, epiekeia, bilishkeit, bilishkeit, biliget, koei en japonais, gongping en chinois, vous avez certains de ces mots qui sont inscrits ici. Pour autant, les comparatistes savent que le même nom de concept peut correspondre à des concepts différents. En anglais, depuis le début du XXe siècle, le terme équité désigne aussi les actions d'une société ou la valeur du capital de cette société, déduction faite de son passif et de la distribution des bénéfices. En sens inverse, les mêmes concepts peuvent donner lieu à une diversité de noms. Les juristes travaillant sur l'équité l'assimilent assez souvent aux concepts désignés sous les noms de bonne foi, de rationalité, voire de justice, avec le risque, déjà souligné par Max Weber, de se référer à des facteurs purement sentimentaux qui s'appuie sur des maximes très générales et creuses. Pour s'éloigner de ce subjectivisme, Max Weber recommandait de revenir aux particularités nationales dans le développement du droit. C'est pourquoi nous tenterons d'abord un panorama de la place de l'équité dans un certain nombre d'ordres juridiques contemporains, avant de proposer une réflexion plus théorique sur les définitions et les fonctions de l'équité telles qu'elles peuvent se dégager du droit comparé. Ce serait trop ambitieux de prétendre réaliser ce panorama sur les presque 200 États de la planète, ce qu'aucune étude n'a fait. Nous avons fait le choix assez classique d'aborder dans un premier temps l'equity dans les systèmes dits common law, puis dans les systèmes de droit civil codifiés, en partant de l'histoire et en insistant sur les règles actuellement en vigueur. Tout en notant les différents sens de l'equity en droit anglais, les auteurs s'accordent à y voir l'héritage de la juridiction du chancelier, développée dans les derniers siècles du Moyen Âge, d'abord justifiée par l'appel à la conscience du chancelier pour venir en aide aux plaideurs qui ne trouvaient pas de remède dans les rites permettant seuls de saisir les cours de common law. Cette juridiction sans jury et avec un juge unique a été qualifié dans des écrits du XVIIe ou du XVIIIe siècle de juridiction d'equity, et la notion s'est ainsi dégagée, avec l'idée notamment qu'en cas de conflit, l'equity l'emportait sur le common law. Parmi les matières relevant de cette juridiction de la chancellerie se sont trouvées les trusts, la protection des droits des emprunteurs ayant consenti une hypothèque pour leur permettre de récupérer leurs biens après le paiement même tardif de la dette, la protection des orphelins, des prodigues, des lunatiques, la possibilité d'obtenir l'exécution en nature d'un contrat, la spécifique performance, les injonctions de ne pas faire, la rescission de contrat, y compris quand les restitutions intégrales ne sont pas possibles, le traitement de la fraude, même en dehors des cas d'intention manifestement malhonnête. Vous avez ici un ouvrage classique d'un avocat, d'un jeune avocat, dont c'est la seule œuvre, il est mort peu de temps après, Snell, en 1868. C'est un des traités, parmi d'autres, qui fait l'objet de rééditions multiples au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'à nos jours en Angleterre et même aux États-Unis. Et vous avez d'abord la liste de toutes les matières, vous voyez une liste assez hétéroclite, qui relève de l'equity, sur laquelle je ne vais pas revenir. Et puis, à l'introduction du chapitre 2, c'est le point original de Snell, la définition de ce qu'il a appelé les maximes of equity, 11 ou 12. Vous voyez aussi sur le texte que l'equity est définie comme une science qui aurait ses postulats dans ses maximes très générales. Equity will not suffer a wrong to be without a remedy. Equity follows the law. Très difficile à comprendre et à interpréter. He who seeks equity must do equity. Equality is equity. On peut rester un peu pantois devant ces types d'affirmations. En réalité, à l'époque où Snell écrit, l'equity, sous la forme de la juridiction du chancelier, est en déclin et elle va être supprimée quelques années plus tard par le Judicature Act de 1873 qui crée la High Court of Justice, qui existe toujours, avec des divisions qui reprennent certes les noms des cours de Westminster ou de la chancellerie, mais qui réalisent ce qu'on appelle la fusion entre common law et equity. Ça signifie que la division de la chancellerie peut recevoir et reçoit souvent des demandes fondées sur l'equity, mais qu'elle peut en recevoir aussi en common law, et que réciproquement, les divisions traitant de la common law peuvent recevoir aussi des arguments fondés en equity. Du fait du maintien de juristes spécialisés en equity, en tout cas à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et du poids représenté par le droit des trusts, la spécificité donc de l'equity s'est maintenue en Angleterre, comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, amenant souvent les auteurs à utiliser le vocabulaire nucléaire de la fission plutôt que celui de la fusion. Dans ces pays, assez curieusement, les matières d'equity restent immobilisées à ce qui relevait de la compétence de la chancellerie en 1873. En revanche, les juridictions d'equity ont disparu au Canada et dans presque tous les États-Unis, sauf au Delaware, c'est la juridiction très connue en matière de société de cet État, au Mississippi et au Tennessee. Et la référence à l'equity dans un corps de règles administré et enseigné séparément a considérablement décliné. Si nous nous tournons maintenant vers les pays de droit civil, on commence bien évidemment par le code Napoléon, parce que chronologiquement, il a été pionnier et a exercé une influence notable sur d'autres codifications en se référant à l'équité dans un tout petit nombre d'articles concernant des sujets spécifiques. Il y avait bien eu le projet d'un livre préliminaire rédigé par Portalis, selon lequel, dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est ministre d'équité. Mais ce projet a été repoussé et le Code civil de 1804 ne comporte que deux articles qui prononcent le mot équité. L'article 565 sur l'accession entre deux meubles, la réunion de deux meubles, où le juge peut se prononcer selon l'équité, mais juste après, il y a une dizaine d'articles pour lui expliquer comment il doit faire quand même, qui l'encadre assez précisément. Et puis, très important, bien évidemment, qui a suscité les remarques géniales de Durkheim, l'article 1134, selon lequel les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Dans le droit français aujourd'hui, ce dispositif a été un petit peu complété par deux articles issus de la réforme de 1965 sur les régimes matrimoniaux et donc sur les rapports patrimoniaux aussi entre époux, article 278 et article 1279, par le Code de procédure civile de 1976 qui, dans son article 700 d'application constante, dit que dans le calcul des dépens, on doit tenir compte quand même de l'équité et pas imposer des dépens démesurés à une partie qui ne peut pas les payer. Et dans le Code du travail, actuellement dans l'article 2524-4, où il y a la mention de l'équité sur le rôle du juge dans l'interprétation des conventions collectives. L'application de tous ces articles se fait sous le contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci a utilisé l'équité historiquement pour quelques constructions jurisprudentielles, comme l'enrichissement sans cause, mais elle se montre assez sévère et casse régulièrement les décisions qui utiliseraient l'équité sans fondement dans ces quelques articles modifiés. Alors, cette version un peu restrictive de l'équité, on la retrouve dans d'autres codes, d'ailleurs inspirés du code français. Le code civil espagnol, plus tardif, 1889, il contient seulement deux articles qui parlent expressément d'équité, l'un sur les clauses pénales, l'autre sur la répartition par un arbitre des pertes à l'intérieur d'une société. Il est vrai que la version de 1889 a été complétée en 1974, on était encore dans le régime franquiste, par un article 2.3 qui affirme que dans l'interprétation des lois, les juges ont la possibilité de recourir à l'équité, mais l'article précise ensuite qu'un jugement fondé exclusivement sur l'équité ne peut intervenir que dans les cas où la loi l'a expressément autorisé. Et ces cas, ils sont toujours au nombre de deux dans le Code civil espagnol, ces deux articles 1154 et 1690. En poursuivant dans la chronologie, le Code civil italien actuel, le deuxième, l'histoire de l'Italie unifiée, de 1942, on y retrouve à l'article 1374 la tradition française sur les suites du contrat, quelque chose de très comparable à notre ancien article 1135. Et puis, en nombre, il peut paraître le plus généreux, 16 autres articles où le terme d'equita est utilisé, en matière de responsabilité et de contrat, mais il y a parmi eux 12 articles sur les contrats spéciaux qui ne sont jamais que la déclinaison pour ces contrats, y compris pour le contrat de travail, des règles générales et notamment de l'article 1374. Donc il y a une extension numérique qui est incontestable, mais qui ne correspond pas, me semble-t-il, à une place considérable non plus de l'équité dans le Code civil italien.
Et le Code civil grec, qui a été achevé seulement en 1946, eh bien, dans le pays d'Aristote, il ne prononce le mot « epieikeia » qu'une seule fois, un article, aujourd'hui 1393, hein, c'est l'anciennement 1456, hein, si vous le cherchez, mais la réforme bioéthique en Grèce a introduit une transformation d'article, c'est plus cet article-là, qui, dans les procédures de divorce, prévoit le recours possible à l'équité pour attribuer le logement à l'un des époux divorcés. Alors, des codes plus généreux pour l'équité, on en trouve quelques-uns, et le premier dans l'ordre chronologique, c'est le code chilien de 1855, rédigé par Andrés Bello, qui était un très grand lecteur de Portalis et qui s'en est inspiré pour introduire à l'article 24 une disposition qui dit que le juge qui ne trouve pas de solution dans la loi, en dernier recours, va pouvoir recourir à l'esprit général de la législation et à l'équité naturelle. Une disposition qui a été reproduite dans d'autres codes d'Amérique du Sud qui imitent le code Bello. Un peu différent, mais avec peut-être une place effectivement plus importante pour l'équité, le code civil allemand, le BGB de 1896, 5 articles qui parlent de la Billigkeit sur le droit des contrats, et puis surtout le paragraphe 242, très connu, sur la bonne foi et la loyauté, Treu und Glauben. Alors, ce n'est pas l'équité, en tout cas dans les termes utilisés, il n'y a pas Billigkeit, mais la jurisprudence allemande, et surtout au cours du XXe siècle, pendant la République de Weimar et dans la République fédérale, après 1949, fait jouer cette clause dans de très nombreuses situations, dans un sens qui est interprété par beaucoup d'auteurs, par la doctrine, en faisant référence à l'équité. Et pas sur le slide, le droit japonais a suivi une voie analogue avec l'introduction en 1947, au début du Code, d'un article général sur la bonne foi qui permet aux juges, dans certains cas, de se référer à l'équité. Nous retrouvons la Suisse avec le Code civil suisse qui a été évoqué par M. Heger, 1907-1912, et son article 4 donne pouvoir aux juges, je cite la version française, d'appliquer les règles du droit et de l'équité, Billigkeit en allemand, equita en italien, dans les versions qui font aussi foi, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte des circonstances, soit de justes motifs. Le Code civil suisse est peut-être ce qu'il y a le plus proche d'Aristote. Mais quand même avec quelques réserves. Cette clause générale, son emploi est contrôlé par le tribunal fédéral, qui, comme notre cour de cassation, n'hésite pas à casser les décisions des juridictions inférieures qui s'attribueraient trop de pouvoir en vertu de l'équité. Et dans la partie code des obligations, il n'y a finalement que 3 articles, 25, 29 et 39, toujours sur des questions de dommages et de responsabilité, qui évoquent l'équité. Une place aussi plus importante de l'équité dans le Code civil égyptien, œuvre d'Al-Sanouray, disciple d'Édouard Lambert, et Édouard Lambert lui-même a participé à la rédaction du livre préliminaire du Code civil égyptien, où l'on trouve une disposition très certainement inspirée à la fois du Code civil suisse et du Code chilien. Alinéa 2, article 1, « À défaut d'une disposition législative applicable, le juge statuera d'après la coutume et, à son défaut, d'après les principes du droit musulman. À défaut de ces principes, le juge aura recours au droit naturel et aux règles de l'équité. » Je me réfère ici à une traduction française diffusée par le ministère de la Justice égyptien, qui est donc authentique, le terme arabe étant celui d'istian, notion de la loi islamique, du fir islamique, qu'on traduit en général par principe de préférence. Pas exactement la même chose que l'équité. Et cette formulation se retrouve dans les codes qui ont été imités du code égyptien en Syrie, en Irak, en Libye et même dans le code civil algérien de 1975. Peut-on mettre dans ce groupe le Code civil du Portugal de 1966 parce qu'il donne au juge, dans son article 4, aussi le pouvoir de décider selon l'équité, mais toujours avec les réserves qu'on a vues précédemment. Quand la loi les y autorise, quand les parties s'accordent pour leur donner cette faculté sur les droits disponibles, ou quand elles se sont référées à l'équité dans une clause compromissoire. Et dans le reste du Code civil portugais, il n'est pas plus question d'équité. Je termine ce panorama par quelques codes civils les plus récents, qui, vous allez voir, sont assez divers. Code civil du Québec, 1991, bien finalement sur ce point dans la tradition française, simplement deux articles sur l'équité, l'accession et les suites du contrat. Code civil roumain, qui s'est beaucoup inspiré du code québécois, deux articles, toujours les suites du contrat et le voisinage. Code civil hongrois de 2013, qui parle de bonne foi et d'équité. Alors, je ne connais pas le hongrois pour dire si le terme hongrois correspond. J'ai consulté une traduction anglaise qui traduit la disposition par le mot « fairness ». J'y reviendrai tout à l'heure. Code argentin, 2014, deux articles sur l'équité, à nouveau sur des questions de dommages et de contrats. Seuls deux codes récents paraissent avoir accordé une plus grande place à l'équité. Il s'agit du Code civil néerlandais, dans les nouveaux livres sur le patrimoine de 1992, qui fonde toutes les relations entre débiteurs et créanciers sur les principes de raison et d'équité, redelijkheid en billijkheid, et autorise les juges, dans des cas exceptionnels, les juristes néerlandais disent c'est un test à la marge, à écarter une norme législative ou coutumière au profit de l'équité. Tout cela se lie à l'article 312, qui renvoie à ce propos aux principes du droit généralement reconnus, aux convictions sur le droit aux Pays-Bas et aux intérêts sociétaux et personnels du cas d'espèce. Et à côté de ce principe général, peut paraître plus large, il y a cinq articles, à nouveau assez classiques, du code néerlandais qui se réfèrent à l'équité. Et puis, c'est tout récent, la Chine s'est dotée en 2020 d'un code civil qui, sur ce point, semble-t-il, a suivi le modèle néerlandais, puisque son article 6, donc au début du code, affirme que tous les rapports civils entre les personnes doivent être fondés sur l'équité et la rationalité, hein, le couple qu'on trouve dans le code néerlandais, et qui mentionne l'équité dans cinq de ses articles. Il est sans doute trop tôt pour savoir quel usage les juges chinois en feront. À partir de ce panorama des mentions du terme « equity » et « équité » dans les systèmes juridiques contemporains, il est possible de se demander de quoi l'équité est le nom pour le juriste comparatiste. Faut-il y voir un critère de distinction entre pays de common law et pays de droit civil, ou une référence décalée d'une partie de la doctrine à un argument juste naturaliste? Malgré la consonance entre les mots employés dans plusieurs langues d'origine européenne, il paraît impossible de définir un concept commun entre l'équité des pays de common law et l'équité des pays de droit civil. L'équité est un corps de règles non codifiées qui s'étend sur un nombre considérable de matières, avec le trust comme cœur et les remèdes à la périphérie, alors que l'équité, dans les codes des pays de droit civil, correspond à un petit nombre d'habilitations faites par ces codes aux juges pour régler un certain nombre de cas équitablement. Et on l'a vu, ça se situe entre 2 et 17 articles par code. En quantité et en qualité, les deux ensembles juridiques sont incommensurables et il n'est pas possible de trouver, sous la forme d'un terme neutre ou méta-juridique, un tertium comparationis qui subsumerait ces deux ensembles de règles sous un concept commun. Parler de modération ou d'équilibre dans le jugement ne renvoie qu'à une infime partie des règles rattachées à l'équité dans les pays de common law. On ne voit pas pourquoi il y aurait plus de modération ou d'équilibre dans le jugement dans les trusts que dans d'autres contrats. alors même que l'association faite par les codes néerlandais et chinois entre équité et rationalité ne peut guère rendre compte du petit nombre de situations dans lesquelles les pays de droit civil admettent le recours à l'équité. On peut espérer que partout, et pas seulement aux Pays-Bas et en Chine, les juges tranchent rationnellement et équitablement, et pas seulement dans les petits nombres d'articles où l'équité est citée. Il est significatif que les traductions en anglais de ces derniers codes, néerlandais et chinois, utilisent d'ailleurs le terme de « fairness » et non d'« equity », comme le fameux procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme correspond au « fair trial ». Cela signifie-t-il que l'équivalent de l'équité des pays de droit civil se trouve dans la fairness des pays de common law ou de ceux qui s'en sont inspirés? Là aussi, la piste ne s'avère pas très fructueuse parce que l'emploi, non pas de fairness, du substantif, mais des adjectifs fair ou unfair, ne se trouve en droit anglais que dans les lois de protection des consommateurs. Ce qu'on appelle les « unfair terms » en droit anglais correspond à nos clauses abusives. Et personne n'aurait l'idée de rattacher les clauses abusives des articles sur l'équité. On peut certes arguer que le code de Louisiane, le troisième, qui est uniquement anglais, de 1870, utilise le terme de « fairness » là où les codes bilingues, donc français et anglais, 1808 et 1825, parlaient d'équité. Mais je ne crois pas qu'on puisse en conclure que le domaine de la fairness du droit britannique correspond à celui de l'équité dans les pays de droit civil. Peut-on alors tenter la thèse qui consisterait à dire que précisément l'equity est une des spécificités qui distinguerait les pays de common law et ceux de droit civil? La matière des trusts, qui est au cœur de l'equity, reste en effet une particularité du droit des biens de common law, sans véritable équivalent par son étendue dans les pays de droit civil, même dans ceux qui connaissent la fiducie avec des fonctions beaucoup plus restreintes. Et beaucoup de juristes contestent l'équivalence entre trust et fiducie, et beaucoup de comparatistes considèrent, peut-être par paresse, que le terme de trust serait intraduisible. À cet égard, on pourrait penser que l'equity serait fondamentalement distinct de l'équité des pays de droit civil et serait en quelque sorte une marque des pays de common law. Mais de nouveaux obstacles se heurtent pour dire que l'equity serait distinctive des pays de common law. Aux États-Unis, il n'existe des cours d'équité que dans trois États, et le principal, le Delaware, c'est parce qu'il a attribué à cette Cour d'équité une compétence en matière de société, de corporation, qui n'a pas d'équivalent dans les autres pays de common law et qui a attiré l'incorporation, l'enregistrement de la majorité des sociétés américaines au Delaware pour tomber à la fois sous le coup de ce droit et surtout sous l'administration de cette Cour qui ne fait que cela et qui donc est spécialisée et réputée rapide. L'association hétéroclite de règles diverses sous le nom d'equity, ou plus souvent dans les manuels equity and trust, relève plutôt d'une discipline que d'une branche du droit. Une discipline enseignée au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais pratiquement plus au Canada, en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Il n'y a pratiquement plus de cours d'équité. Il est significatif aussi que les pays de droit mixte, j'ai cité l'Afrique du Sud, mais aussi l'Écosse, arrivent notamment dans le droit des contrats à des résultats comparables, sinon identiques, à ceux des equitable remedies sur la base de concepts empruntés au droit romain. Si l'equity survit comme une catégorie traditionnelle de certains pays de common law, c'est encore une fois à travers des ouvrages doctrinaux, rappelez ce que je disais sur le traité de Snell, qui maintiennent un semblant de cohérence entre des matières ayant perdu toute unité dans le droit positif. L'equity et l'équité font toujours pourtant l'objet d'une littérature savante dans de nombreux pays, Royaume-Uni bien évidemment, et certains pays de common law, l'Italie, la France, l'Espagne, et de la part de spécialistes de droit musulman qui travaille sur ce concept du fir, de la science musulmane, l'istihad, qui est plutôt un mode de raisonnement, d'argumentation, avec un principe de préférence. Les professeurs de droit qui écrivent sur l'équité continuent ainsi à lui chercher une signification unitaire, ou du moins réductible à quelques idées, alors que l'étude empirique et comparative montre la diversité extrême des règles attachées au terme d'équité ou d'équity dans les différents droits positifs, et dans beaucoup de pays de droit civil, la présence numériquement faible, voire l'absence totale, de ces références à l'équité dans les codes et dans les lois. Comment expliquer qu'une partie de la doctrine persiste à discuter, à disserter sur un tel principe qui serait philosophique ou méta-juridique, alors que les textes de droit positif n'ouvrent pas tellement d'horizons, en dehors peut-être de nouveaux textes, il a été question sur l'environnement, à cette notion d'équité. L'équité apparaît dans cette littérature comme une forme différente de droit, un état d'esprit, une source d'inspiration du droit, et surtout une manière d'expliquer le travail des juges sur l'interprétation des textes législatifs. Il est fait souvent référence, par exemple, aux analyses de Dworkin à propos de la décision de la Cour de New York en 1889, Riggs versus Palmer, sur l'incapacité successorale du meurtrier d'un testateur. Le meurtrier était couché sur le testament de celui qu'il avait tué, et la question qui n'était pas tranchée par les précédents était de savoir s'il était digne ou indigne de recevoir l'héritage du décujus qu'il avait tué. Et les juges ont eu recours, effectivement, à des principes de fairness, et cet exemple célèbre a été souvent utilisé par Dworkin pour montrer l'importance, à côté des règles, de ces principes de justice, de due process ou de fairness, terme que l'on peut peut-être, et j'ai exprimé quelques doutes là-dessus, traduire par équité. Pour un partisan du positivisme juridique, cet appel à un principe d'équité relève d'une forme ou d'une autre de jus naturalis, même si le terme n'est pas prononcé. Et il pourrait témoigner de la persistance de cette option philosophique, tout à fait respectable, mais d'une persistance que Kelsen lui-même avait reconnue pour mieux la combattre, l'hydre jus naturalis dont il faut toujours couper des têtes. Pour un juriste comparatiste, il paraît bien téméraire de chercher à unifier sous un même concept de la science du droit, des règles de droit positif actuelles qui accordent, on l'a vu, des portées et des fonctions si diverses à l'équité. Pour un historien du droit, force est de constater l'héritage, plus ou moins conscient et informé, de la doctrine des temps antiques, médiévaux et modernes, qui s'était tant interrogée sur l'aequita scripta ou non scripta, sur les liens entre aequitas et epieikeia aristotélicienne, comme sur la contribution de l'équité à la réflexion sur l'interprétation des lois. Mais il y a mille et une manières de traiter de l'interprétation des lois par les juges sans se référer à l'équité. Dans les contextes actuels où les juges des pays de droit civil, comme ceux des pays de common law, interprètent les lois au regard d'un réseau de plus en plus complexe d'énoncés constitutionnels et de normes internationales, en s'efforçant surtout d'assurer la cohérence de leur jurisprudence, cette riche littérature juridique, en tout cas dans sa filiation avec le droit civil, avec le droit privé, je ne parle pas des développements plus nouveaux qui ont été suggérés en droit de l'environnement, cette riche littérature juridique, ou ce qu'il en reste sur l'équité, ne peut paraître que décalée par rapport à ce qui a été positivé par les codes ou les décisions judiciaires sous les termes d'equity, de fairness ou d'équité.
Merci. Venez prendre place pour la discussion. Bien sûr, la notion d'équité a été abordée dans une perspective différente, puisque vous avez mis l'accent sur le travail du juge, puisque vous avez même fini par dire qu'au fond, l'équité pouvait être considérée par certains comme un mode de travail du juge de façon générale, alors que là, c'est sur les conditions de rédaction d'un texte. Donc, de votre côté, c'est le texte qui est en cause, alors que là, c'est l'interprétation du texte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien tout de même ? Parce que je suis frappé par le fait... Vous avez cité Yves Bonnefoy, qui n'est certes pas un juriste, mais dont les considérations sur la traduction sont intéressantes. Et effectivement, les exemples que vous nous avez donnés montrent à quel point il y a une possibilité d'améliorer des textes à l'épreuve de cette traduction. Et que la traduction est une épreuve bénéfique. Alors j'aimerais vous poser une question très simple. Est-ce que si cette épreuve de la traduction... permet d'avoir une clarification, est-ce que cela, quel est l'effet sur, je dirais, l'activité des juges en Suisse ? Est-ce que les textes sont rédigés pendant la Révolution ? On disait, si un texte est magnifiquement rédigé, le juge n'est que la bouche de la loi. Est-ce que donc, chez vous en Suisse, le juge est davantage la bouche de la loi parce que les textes sont si bien rédigés grâce à ces épreuves de la traduction ? Que les conditions de l'interprétation, je dirais, deviennent plus limitées. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet égard ?
Alors oui, merci de la question. Effectivement, j'avais juste fait une petite note vers la fin de mon intervention. Il y a plusieurs juges dans le passé, mais même contemporains, un ami que je connais très bien, qui me disent qu'effectivement, le fait de disposer de trois versions linguistiques qui expriment ou essayent d'exprimer la même norme, c'est une arme interprétative très forte pour le juge, parce que si une version n'est pas claire, il peut toujours s'appuyer sur les autres. Du reste, certains juges, lorsqu'il s'agit d'appliquer un article, lisent systématiquement les trois versions. La plupart du temps, simplement pour s'assurer que les trois versions disent la même chose. Mais après, il faut voir comment ils la disent. Et donc, c'est, comme vous le disiez, c'est effectivement un instrument très puissant pour tout le travail herméneutique que doit faire le juge.
Je trouve ça très intéressant parce qu'actuellement, on voit à quel point, en tout cas, je vois dans le cas français à quel point les conditions de rédaction des lois aboutissent à des textes épouvantablement rédigés parce que ceux qui font les propositions de loi sont mal conseillés, mal rédigés aussi parce que l'intervention du Conseil d'État est loin d'être suffisante, et je ne parle pas de celle du secrétariat général du gouvernement qui joue son petit rôle de filtre. Et donc, il est vrai que dans nos sociétés, il y a un vrai problème de rédaction des lois, et que l'exemple suisse montre que, à travers cette épreuve de la traduction, il y a une contribution utile à cette clarification. Pour l'exposé de Jean-Louis Alperin, j'aurais deux questions à lui poser. La première, vous avez insisté à juste titre sur le fait que le terme même d'equity a une consonance économique, si je puis dire, dans son origine, et qu'il a de plus en plus aujourd'hui. Le private equity domine le capitalisme à venir. Et qu'il a été, en quelque sorte, inventé et lié à cette forme à la fois sociale et économique particulière que sont les trusts et qui n'ont pas d'équivalent. Mais si on dépasse, je dirais, ce domaine des trusts que vous avez évoqué, parce qu'en termes historiques, il convient de le faire, la distinction entre l'equity, le terme d'equity allant vers celui de fairness transforme un peu le cadre d'analyse, si on met de côté cette question-là. Et vous avez justement fait cette distinction. La question que j'aimerais vous poser concerne l'office du juge lui-même. Vous dites à juste titre que l'équité participe du mode de travail du juge en général. Ça n'est pas simplement l'espace de liberté que lui laissent les imprécisions de la loi. qui définit l'équité. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est l'office du juge. Il n'est pas le même, je connais mal tout le droit européen, mais il n'est pas le même en tout cas en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a très souvent un juge unique. En France, il y a une cour. Et j'ai le sentiment que la distinction entre un juge unique et une cour est considérable. C'est-à-dire que la cour présuppose un espace de délibération. Et de fait, ça fonctionne comme ça. Quand on voit la façon dont des magistrats prennent leurs décisions, ils discutent entre eux fortement. Et aux États-Unis, l'office du juge est vraiment... c'est une personne. Et donc, la notion même de travail du juge me semble différente si c'est une personne unique. Moi, j'ai été jugé aux États-Unis pour un excès de vitesse aggravé. Et donc, je suis passé devant un tribunal. Heureusement, j'ai dit que je plaidais coupable, sinon ça aurait été très compliqué après. Et le juge m'a demandé pourquoi je conduisais comme ça, etc. Il a évalué, si je puis dire, mon comportement. Mais c'est une personne qui a évalué. Donc, ma question est la suivante, elle est très simple, c'est que cet office du juge, on peut le juger, on peut l'évaluer en général, mais cette distinction entre le juge et la cour, est-ce que ce n'est pas un élément justement dans lequel la question de l'équité prend de l'importance quand c'est la personne par rapport à la cour ? C'est-à-dire qu'on doit enseigner l'équité de façon plus forte si c'est un juge unique que si c'est une cour, pour simplifier.
Alors, avant de vous répondre, je vais le faire. Je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit aussi sur l'emploi courant du terme equity. Bien évidemment, si on va sur Internet et qu'on tape equity, on va tomber sur des textes relatifs aux sociétés et à l'économie, alors que ce n'est pas une matière d'equity. Hein. Ouais. Si on raisonne comme un juriste britannique et qu'on cherche des livres sur l'equity, c'est uniquement des livres sur equity and trust, où il n'est plus du tout question des sociétés. Curieusement, d'ailleurs, d'un point de vue historique, il y a peut-être quelque chose à en tirer, ce qui a dépendu de l'equity, c'est le système des sociétés de personnes, les partnerships, qui ont été les plus importantes, en réalité, dans la révolution industrielle. Mais tout le système des sociétés de capitaux s'est développé sur des bases législatives, et donc en dehors de la distinction entre common law et equity. Et encore une fois, dans les manuels d'equity, il n'en est pas du tout question. Hein. Et ça explique aussi que aux États-Unis, comme je le disais, alors que ça existait autrefois, il n'y a pratiquement plus dans les law schools de cours d'equity, alors bien évidemment qu'il y a des cours sur les compagnies, sur les corporations, qui sont très importants. Alors sur votre deuxième question, c'est vrai que là aussi, historiquement, la juridiction du chancelier est une juridiction d'un juge unique, ce qui la distingue des juridictions de common law par l'absence du jury, hein, notamment. C'est le chancelier qui rendait la justice seul, ou par un de ses assistants, mais lui aussi seul, le Master of Rules. À partir du moment où a été supprimée la juridiction de la chancellerie et instaurée la High Court, la High Court est un organe collectif hein, qui fonctionne avec 10 divisions qui sont l'équivalent de nos chambres, comme d'ailleurs les cours d'appel d'État ou fédérales aux États-Unis. Alors la présence du juge unique, elle reste forte dans les pays de common law, dans le domaine pénal, comme vous avez pu l'expérimenter. Elle n'est pas si importante que ça dans le domaine civil. Aux États-Unis, le jury a été conservé en matière civile. Au Royaume-Uni, il a disparu depuis les années 1930. Tout ce qui a valeur de précédent va être décidé aussi par des juridictions collégiales. Hein, la High Court, maintenant la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a remplacé le comité judiciaire de la Chambre des Lords. Alors après, on peut toujours dire, et avec raison, que les styles judiciaires des pays de common law restent fondés sur les opinions individuelles des juges, avec la possibilité, comme on le sait, d'opinions dissidentes,
et donc une liberté dans l'expression de ses opinions qui, combinée avec le fait que certaines parties du droit, et seulement certaines parties du droit, ne sont pas réglées par des lois, par des statuts, laisserait à chaque juge individuellement une plus grande marge de manœuvre pour développer une argumentation de type conséquentialiste, par exemple, qui peut faire appel, justement, à l'équité. Alors que le jugement collectif, anonyme, des pays de droit civil, sur le modèle français, et le contrôle de ces décisions par une juridiction, qu'elle s'appelle de cassation ou pas, mais qui, en tout cas, a pour rôle de vérifier que les décisions sont conformes au droit, et une arme contre l'équité, hein, une manière de tuer l'équité. Hein, on le voit encore aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, la Cour de cassation, dans un arrêt qui a fait du bruit, a cassé un jugement d'un conseil de prud'homme qui avait voulu utiliser l'équité en dehors des cas prévus par la loi. Et la Cour de cassation a voulu dire, c'est peut-être pas très adroit, mais c'est dans la motivation que l'équité n'est pas une source du droit. Donc n'hésite pas à taper sur les doigts des juges qui dépasseraient ce pouvoir. Bon, je n'ai pas la même expérience du tribunal fédéral suisse, mais bon, dans ce que j'ai vu dans la doctrine et dans les annotations de l'article 4, j'ai bien l'impression quand même que le tribunal fédéral aussi, même avec cette clause très large de l'article 4, empêche les juges de juger arbitrairement ou de juger selon leur propre conception de l'équité et les ramène toujours finalement sur des règles exprimées par écrit.
Mais oui, si la règle est exhaustive, il n'y a pas d'espace pour l'équité. Donc, comme vous l'avez dit, l'équité, hélas, n'est pas une source de droit.
Oui, mais la demande sociale d'équité est très forte, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes et de cas qui sont menés devant les tribunaux en faisant de fait référence à un argument d'équité. Bien, écoutez, je crois que c'était très bien de terminer sur ce colloque sur l'office du juge et la production de la loi, parce que là, c'est un des modes, je dirais, d'administration d'apparition d'obligation de redéfinir cette notion même d'équité. Et là, c'est l'épreuve finale, si je puis dire. Et donc peut-être que Dario peut dire quelques mots pour conclure ce très riche colloque.